France Inter. Tapage, nom masculin, bruit excessif, boucan, vacarme. Le tapage, c'est le son qui trouble le voisinage, qui résonne dans la nuit, vous empêche de dormir, et c'est le nom de votre nouveau rendez-vous musical sur France Inter. Jusqu'à 21h, on fait monter les décibels, on prend le pouls de la musique d'aujourd'hui, on plonge dans les sons, on cherche ce qu'ils racontent de nous, en compagnie ce soir d'une messy girl à la française. Je vais vous expliquer, elle s'appelle Mickey. Je m'appelle Camille Diao, bienvenue dans mes oreilles, bienvenue dans ta page.
Ta page. Camille Diao. Sur France Inter.
C'est donc parti pour une heure de tapage et j'ouvre avec une chanson qui m'a un peu obsédée ces derniers mois. I'm too messy, je suis trop bordélique, chante la Britannique Lola Young, 24 ans, look un peu trash, double piercing au nez, ongles et fossiles aussi XXL que le succès de ce titre qui a explosé sur TikTok l'hiver dernier et qui cumule à ce jour plus d'un milliard d'écoutes. Messy, c'est un hymne générationnel, un cri de ralliement pour toutes ces filles qui se sentent un peu bancales, brouillonnes, inadaptées. Et si je vous en parle, c'est parce que cette chanson me semble incarner une tendance de fond qui travaille toute la pop féminine. C'est ma théorie de la semaine. Il se passe un truc un peu foutraque, un peu chaotique dans la musique pop, et c'est plus politique qu'il n'y paraît. Je vous explique. Été 2024. On est quelques mois avant le succès fulgurant de Lola Young, et c'est une autre anglaise qui lance, avec ses quelques notes, un phénomène mondial, le Brat Summer. Brat, c'est le nom du sixième album de Charlie XCX. Et plus qu'un album, c'est un mode de vie. Brat, en anglais, ça veut dire sale gosse, morveuse. C'est une fille mal élevée, insolente, qui prend trop de place. La Brat Girl, elle fait la fête, elle dérape parfois, elle est loin d'être parfaite, mais elle reste honnête. Bref, ce terme, à l'origine péjoratif, l'artiste en a fait un manifeste en embarquant d'autres popstars avec elle. Vous allez reconnaître la voix qui vient. Et oui, c'est Billie Eilish en featuring avec Charlie. Alors la Californienne est certes un peu moins messy que ses consoeurs britanniques, mais tout de même, avec ses baggies XXL et ses casquettes à l'envers, Billie Eilish, elle a réussi à se hisser au sommet de la pop mondiale sans jamais se plier aux injonctions de glamour et d'hyperféminité qui pèsent habituellement sur les jeunes pop stars. Et en les regardant, toutes les trois, Lola, Charlie, Billie, je me dis qu'elle a bien changé la pop musique quand même. Moi j'ai grandi dans les années 90-2000, mes idoles à l'époque c'était Britney Spears, baby doll à peine sortie de l'adolescence et déjà hyper sexualisée, ou encore Beyoncé, une diva tellement parfaite qu'elle en est quasi surhumaine. Alors vous me direz, il y a toujours eu des pop stars moins polissées, plus transgressives, des Madonna, des Cyndi Lauper. Bah oui, mais elles s'en prenaient quand même plein la figure. Et au moindre faux pas, nos idoles étaient jetées à terre, piétinées. Souvenez-vous du crâne rasé de Britney en 2007, un moment très brat hein, quand on y pense. À l'époque, les médias et le public se délectent de sa descente aux enfers. Il n'y a guère que ses fans les plus fidèles pour la défendre. Alone. 17 ans plus tard, Lola Young, elle, peut chanter sans complexe et sans que personne ne lui reproche. Je fume comme une cheminée et une semaine sur deux, je craque comme Britney. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. Cut me some slack, lâchez-moi, un message qu'elle adresse aussi bien à son ex qu'au patriarcat. Et c'est là que je reviens à ma théorie. Être brat comme être messy, c'est opposer un contre-modèle, un contre-imaginaire à deux figures féminines, stars des algorithmes. D'un côté, on a la clean girl, toute de beige et de leggings vêtue, qui file à son cours de pilates à 6h du mat, un jus de détox à la main. Et puis de l'autre, la trad wife, cette femme au foyer 2.0, qui prône des valeurs ultra-traditionnelles. deux avatars d'une même vague conservatrice mondiale à laquelle Charlie, Billy, Lola et les autres opposent en chœur et en chanson un grand non. Alors je suis pas naïve, il y a aussi du marketing là-dedans, mais tout de même, j'ai envie d'y voir une forme de résistance par la pop musique et leur succès, eh ben il est politique. Et puis pour finir de vous convaincre, je vous propose qu'on écoute le nouveau morceau de Lola Young, c'est Not Like That Anymore sur France Inter.
Sur France Inter.
Bonsoir Mickey.
Bonsoir Camille.
Et bienvenue dans ta page. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être ma toute première invitée. Je suis super contente de vous recevoir.
Et moi, je suis super flattée.
Alors avant de vous présenter, de plonger dans votre musique, de vous écouter en live aussi, puisque vous allez nous offrir deux morceaux ce soir pour le prix d'un. Est-ce que ça vous parle, cette tendance messy, bordélique dans la pop que je décryptais en introduction ?
Complètement. Complètement, et je trouve que c'est aussi en corrélation avec le fait qu'il y a autant d'artistes féminines qui sont en train de tout niquer en ce moment. Et la plupart d'entre elles revendiquent cette mentalité, donc je trouve que c'est trop bien.
C'est vrai que ça fait quelques années que quand on regarde les hit parades mondiaux, les filles, elles débarquent vraiment en masse. Et ça, c'est assez nouveau. Là, je parlais de Lola Young, Charlie XCX, de Billie Eilish. Là, il y a Sabrina Carpenter qui vient de sortir un nouvel album. Elles sont vraiment en train de dépasser les garçons, en fait.
Complètement.
C'est réjouissant.
Complètement.
Vous-même, vous êtes un peu une messy girl, j'ai l'impression. Je me suis peut-être avancée en vous présentant tout à l'heure, mais dans votre chanson, dans votre style vestimentaire, dans vos clips, je trouve que vous déconstruisez aussi ces injonctions à la féminité, à la douceur, à la sagesse qui pèsent sur toutes les jeunes femmes.
Ouais, bah, j'essaie d'être d'enlever le plus de filtres possible entre la personne que je suis dans la vraie vie et dans la musique, donc... Ça revient peut-être un peu à ça, ouais.
Mais en interview, vous avez raconté comment pendant longtemps, justement, vous vous êtes plié à ces injonctions. Vous disiez, pendant longtemps, je pensais que je pouvais pas être une fille si je portais pas de maquillage, quoi. Et j'ai l'impression que dans votre chemin, la façon de trouver votre musique, votre identité, votre écriture, elle est passée aussi par lâcher tout ça, le laisser derrière vous.
Complètement. Je pense que c'était un changement de style de vie qui a mené à un changement de manière d'écrire. Et de chanter, c'était pas dans le sens inverse. C'était pas genre, ah, je fais la musique, du coup, je deviens comme ça. J'ai essayé de me transformer mentalement et en fait, ça en a découlé naturellement aussi.
Miki, je vous présente quand même. Vous avez 26 ans, vous êtes franco-coréenne, vous avez grandi au Luxembourg. Votre premier succès, vous le devez à un morceau, Échec et Mat, qui a explosé sur TikTok, c'était l'année dernière. On suivi des prestations assez remarquées en festival. Moi, je vous ai vu à Wheel of Green sur une toute petite scène et c'était assez frappant de voir une grande partie du public déferler sur cette scène pour assister à votre concert. Vous étiez très attendu. Un premier EP, Graou, qui est sorti au printemps. Votre musique, on peut la qualifier de pop électronique, et pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, elle sonne comme ça.
Un cœur tombe pas parfois dans des boîtes de night. J'avoue, au fond, c'est pas si mal d'être à Z, mais j'avais honte d'être moi. À m'entendre les cheveux, cachant mes yeux sous des lentilles bleues. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. À deux doigts d'un échec et mat, mat, mat. Moi ça, échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Oui, c'est qui. Oui, c'est qui.
Alors c'est qui, Miki?
C'est qui Miki? Mais moi je sais pas qui c'est Miki. C'est qui Miki selon toi? Selon vous, on va vous voyez.
Selon vous, selon moi, Miki c'est une fille qui est bien dans son époque quand même.
Ah ouais? Bah c'est trop marrant parce que c'était toujours une question que je me posais en grandissant, en regardant les artistes, en mode genre waouh, ça doit être dur. Enfin, les chanteurs, ils ont vraiment cette vocation d'être chanteurs parce qu'ils sont vraiment ancrés dans leur société, ils sont vraiment alignés. Genre moi je serais jamais comme ça. Et c'est trop drôle parce que je pensais pas du tout qu'en écrivant ce que j'ai écrit, bah ça parlerait à des gens et que les gens justement me disent ça. Parce que pour moi, j'ai l'impression pendant tellement longtemps d'être loin de ça et à côté de la plaque, quoi. Que...
Ça, vous vous sentiez en décalage?
Oui.
Avec votre temps?
Ouais, enfin je me suis dit, c'est pas mon... J'ai jamais eu l'impression que le monde dans lequel je vivais était destiné pour moi. J'ai l'impression que je suis dans l'antichambre. Et que il va se passer quelque chose d'autre après. Donc donc ouais, c'est assez étonnant.
Alors je disais tout à l'heure, votre succès, il a été assez fulgurant, des millions d'écoutes sur TikTok, sur un titre, un Olympia que vous avez annoncé, qui est déjà complet d'ailleurs, alors que vous n'avez sorti que deux morceaux. Il y a eu des invitations à la radio, à la télé, et ça vous a valu des attaques assez violentes sur les réseaux sociaux. On vous a reproché d'être une industry plant, ça mm-hmm. veut dire une plante de l'industrie, hein, je traduis. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que ça veut dire? Et comment est-ce que vous comprenez ce reproche?
Alors déjà, ce que ça veut dire, en fait, en tout cas de moi, ce que j'ai compris du coup après coup, parce que je connaissais pas ce mot non plus, c'est des marionnettes, des personnes qu'on appelle pour être un peu voilà des interprètes et qui sont complètement boostées par le marketing, l'argent, des labels. Et on leur donne, on les façonne pour être un peu l'artiste que les labels veulent qu'ils soient, quoi. Donc c'est pas eux qui composent, ouais. Et c'est pas eux qui écrivent, et ils ne font que exécuter des ordres ou une vision.
Donc vous reprochez d'être une sorte de produit marketing qui n'a aucun talent et qui fait semblant d'avoir un succès naturel et organique, alors qu'en fait tout ça c'est calculé par des gens de l'industrie qui tirent les ficelles, quoi.
Ouais, voilà, c'est un peu un mélange de complotisme et de misogynie, je pense aussi. Mais ouais, voilà, C'est assez drôle, quoi. C'est très drôle.
C'est drôle. C'est violent, en réalité.
Ouais,
de se voir reprocher ça quand on a 26 ans, qu'on connaît ses premiers succès et qu'on a travaillé dur, quand même, pour les avoir, ces succès.
Ouais, vraiment. Ouais, bah c'était vraiment pas cool, en vrai. Après, là, ça fait plus d'un an que ça s'est passé, donc maintenant, j'arrive à le prendre avec plus de recul, mais c'était hardcore. C'était hardcore parce qu'il y a des moments où, genre, pour limite, tu te poses des questions et tu dis, genre, attends, mais est-ce que c'est vrai et tout, machin. Et je suis là, mais arrête, Mickey, enfin, complètement. Enfin, bon, bref.
On vient douter de soi-même.
Ouais, complètement. Mais voilà, on apprend à prendre ça avec des pincettes. Parce qu'en fait, on me reprochait tout et n'importe quoi. On me reprochait d'être trop jeune, trop vieille, de faire des clips à l'iPhone. Ce qui est quand même ridicule, quoi, comme reproche. Enfin, bref, on me reprochait tout et son contraire. Et à bout d'un moment, je me suis dit, ok, c'est ridicule, passons à autre chose, quoi.
C'est un reproche qu'on a fait à plein d'autres jeunes artistes, hein. Je pense à Théodora, à Sao Tsa Gazan ici en France, et même à Lola Young qu'on écoutait en début d'émission, comme si pour une partie du public sur internet on ne pouvait pas être une jeune femme et avoir du talent. Mickey, vous avez une écriture qui est très particulière, qui est très autobiographique, sans filtre, comme une espèce de flot qui se déverse sur la musique. Écoutez vos morceaux, c'est un peu comme plonger dans les pages de votre journal intime. Avant d'en parler, je propose qu'on vous écoute, puisque Mickey, vous êtes venu avec deux morceaux dans les poches, deux morceaux que vous allez interpréter en live. On commence avec le morceau qui vous a fait connaître.
C'est parti.
Échec et mat. Mickey, en live, dans ta page, sur France Inter.
À 19h, j'ai booké sur un mec. 19 fois pour qu'il me sorte de la tête. Le poisson à la tête de requin. Ton nom est placardé sur toutes les grosses caisses. Je veux sur mes grosses fesses. Hein. Je me suis paumé dans la boîte de nuit. Le DJ voulait pas passer mes sons. En même temps, j'aurais fait la même devant une meuf qui est taminée, pâteuse, pétasse, qui lui parle comme un moniteur de camp de vacances. Genre qu'avec des kikous des tilos. Car je kiffe les mecs qui sont pas qu'adit à moi. Mais j'avoue, j'ai vu la limite. Le dernier m'a poussé à bout de mes antivomitifs. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. À deux doigts d'un échec et mat, mat, mat. Moi ça échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. Et puis, on contre-attaque. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Les gens qui boivent des bubble tea me dégoûtent. J'en fais partie. Auréole mélancolie, je m'attaque drama même si ça me gêne. Je kiffe les courses et qui draguent même si ça me gêne. Je laisse des traces de transmission la seule. Ça me gêne et en même temps je trouve ça sexy. Comme une cravate au bout du cou ou des cratères sur les genoux. Le revers de ma jupe raccourci pour toi. Et pour faire passer le temps, chercher des stages au pif. Copiant collant les lettres de motivation. Attends, attends, laisse-moi faire encore un pâté de maison. Juste pour écouter un dernier son. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. À deux doigts d'un échec et mat, mat, mat. Moi ça échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. Et puis, on contre-attaque. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Tu sais, je vais pas me forcer à écrire un truc qui te touche. Même si tu sais que si je veux, je couche. Tu changes de visage comme de caleçon. Un jour c'est bon, un jour t'es con. Comme quand t'aimes plaquer ma tête contre la plaque de la cuisinière. J'aimais l'idée que c'était pour me tenir chaud. Parce que sans toi j'ai froid. Sans toi je suis rien, mon guérisseur. Qui sent que j'ai guéri seul. Je suis paumé. Comme la pomme pote au fond du frigo. Que personne n'ose plus toucher ni jeter. Car j'en veux peut-être encore la peine. J'ai peut-être encore du potentiel. Moi j'y ai cru en tout cas. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. À deux doigts d'un échec et mat, mat, mat. Moi ça échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. Et puis, on contre-attaque. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait.
Retenez bien son nom, parce que vous n'avez pas fini d'en parler. C'était Mickey en live sur France Inter. Le morceau s'appelle Échec et Mat.
France Inter, ta page.
Merci Mickey. Alors, dans une précédente interview, interrogée sur votre processus d'écriture, vous avez répondu, je vous cite, « Je dis tout ce qui me passe par la tête et on verra. »
Ouais, c'est ça.
Ça veut
c'est
dire quoi?
C'est exactement ça.
Ça se passe comment?
Ben, je pense qu'il y a un processus que je fais qui est vraiment d'écrire constamment, tout le temps. J'ai toujours plein de petits carnets qui traînent. Et j'essaie de décrire de la manière la plus véridique possible, ce qui est très difficile, en fait. Je ne sais pas si vous, Camille, vous avez essayé.
Je n'écris pas encore de chansons, Vicky.
Non, mais d'écrire de manière vraiment véridique.
En étant honnête avec soi-même aussi.
Hyper honnête avec soi-même. Et souvent, ce genre de moments, ça arrive aussi quand on écrit des messages pour des gens. En fait, quand on est dans une mentalité de dire « Ok, là, maintenant, je vais essayer d'écrire ce que je ressens et mes pensées et tout ça », c'est un peu difficile parce que c'est assez solennel. Alors qu'il y a des moments où on écrit des messages à des amis, où on a vraiment besoin de faire passer un message. Et c'est là, cette sensation-là, de croustillant, où toi-même, en fait, tu découvres un truc par rapport à toi et tu... Ouais, il y a un truc physique qui se passe. Et en fait, ce sentiment-là, je voulais essayer de le recréer, le retrouver, mais dans l'écriture de musique, quoi.
Et ça peut donner des choses très, très intimes, même potentiellement un peu embarrassantes. Je me touche en pensant avant son maquille. Bon, je sais qu'on vous en parle à chaque fois de cette phrase, mais il faut qu'on en reparle.
Allez, parlons-en.
Vincent Macaigne.
Oui, Vincent. Alors Vincent, c'était un été, un mois d'août. Je suis allée au cinéma au Pathé Weppler et je suis allée voir Médecin de nuit. En fait, j'avais déjà vu dans d'autres films avant, mais je l'avais dans ce film-là. Et il joue vraiment juste un mec dans une voiture pendant genre 2 heures. Et il n'y a rien de très excitant, tu vois, mais je me suis dit genre... Wow, c'est l'homme de ma vie. Et du coup, voilà. Mais j'ai des crushs comme ça sur des acteurs un peu inattendus, genre Paul Dano, par exemple. Ouais, je sais pas. Il dégage un truc de fou.
Alors, je sais, puisque vous l'avez raconté dans la presse, que depuis, vous êtes croisés de loin, que c'était un peu gênant, que vous avez échangé des onomatopées. Moi, je me suis dit qu'il était temps de crever l'abcès avec Vincent Macaigne. Alors, pour vous aider, j'ai décidé de forcer un petit peu le destin.
Bah alors, bonjour, ouais, Mickey. Bah écoute, en tout cas, je te remercie d'avoir parlé de moi dans cette chanson, parce que j'ai pu découvrir ton travail, et je suis complètement fan. Donc, ça me flatte, parce que ce n'est pas du tout courant d'entendre ce genre de choses. J'ai écouté du coup les textes d'une manière très précise et pas que de celle-là, et je trouve que c'est super bien écrit et très profond et très très cool, quoi. C'est quand même plus ou moins un honneur et maintenant du coup je te suis, t'as ton plus grand fan.
Oh, j'adore. Trop bien. Bon, bah, je vais peut-être l'inviter pour un feat.
Mickey, je reviens à votre écriture. Ce qui me plaît aussi dans vos morceaux, c'est votre façon de jouer avec les sonorités, de faire claquer les mots. On va écouter un exemple. Mickey Kebab, je m'en keb, je m'en bats au bab. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ?
Mais
est-ce qu'il y a quelque chose
pas.
À comprendre ? C'est ça l'authenticité ? C'est ça être réel avec soi-même ?
Bah, je pense, alors cette chanson, ça fait partie des chansons auxquelles je n'ai retouché à aucun mot. Je l'avais écrit dans une espèce de chambre d'Airbnb dans le sud, après un concert au Mas des Escaravanciers. Je me souviens, ils avaient une chaleur de poney. Je n'ai rien changé aux paroles de cette chanson. Et je me souviens, quand je l'avais présentée à mon équipe, je me suis dit, bon, ça c'est sûr, c'est le son avec lequel je vais devoir le plus devoir me battre pour dire, non les gars, vous ne comprenez pas, vous allez voir. Et en fait, tout le monde est en mode genre, c'est fou. Donc, je suis en mode, bon, all right.
Ça va peut-être vous surprendre, mais dans ce jeu avec les sonorités, moi je trouve qu'il y a presque du Aya Nakamura. Je vous cite Aya. Est-ce que je tente de chanter Aya ? Allez, j'y vais. Allez. Pour des pipelettes, ça va claquer, crac. Je crois que c'est leur ding-dong. C'est du Mickey dans le texte, en fait.
Je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que dans tous les... Enfin, les sonorités, elles portent une richesse de messages qui peut être beaucoup plus inattendue et beaucoup plus grande qu'on ne le pense. Et c'est souvent dans les morceaux qui sont les plus expliqués, ou genre justement c'est les plus écrits, on essaie le plus de nous faire comprendre un message que c'est cringe en fait. Alors que quand c'est entre
cringe,
les lignes...
ça veut dire un peu gênant.
Oui, pardon, gênant. Alors que quand on passe par un truc beaucoup plus animal, beaucoup plus primitif, qui sont les sonorités, en fait, on va soi-même, l'auditeur, va chercher ce qu'il a envie d'entendre entre les consonnes, entre les syllabes. et c'est beaucoup plus fort parce que c'est beaucoup plus personnel.
Mais d'ailleurs, derrière ces jeux avec les sonorités, derrière votre côté très, très malicieux, très espiègle, il y a aussi des choses très dures. Je pense au morceau Cartoon Sex, dans lequel vous évoquez une agression sexuelle par un prof de tennis. Un autre morceau, Échec et Mat, qu'on écoutait à l'instant, il est question de violence physique. On va écouter.
J'ai des cuisses qui se touchent parfois, j'ai des belles hivernes quand on m'écoute pas, j'ai un prof de tennis qui m'a touché là où fallait pas, depuis j'ai un peu ping-pong. Tu changes de visage comme des caleçons, un jour c'est bon, un jour t'es con, comme quand t'aimes plaquer ma tête contre la plaque de la cuisinière. J'aimais l'idée que c'était pour me tenir chaud, parce que sans toi j'ai froid, sans toi je suis rien, un guérisseur qui se rend que j'ai guéri seul.
C'est un peu la méthode Mickey, j'ai l'impression. C'est, je balance quelque chose de très dur et juste après, hop, je désamorce avec un trait d'humour.
Ouais, parce que sinon c'est chiant, non?
Vous dites que vous aimez quand le mignon côtoie le malsain.
Ouais, oui, aussi. Et je pense que ce truc-là, on va l'entendre encore plus dans les morceaux qui vont venir très bientôt, sur lesquels j'ai travaillé récemment. Mais c'est un sentiment que je retrouve dans les cartoons, dans les dessins animés, dans des visages de personnes, dans des intonations. Et c'est un peu impalpable, mais ouais, je sais pas si vous voyez de quoi je parle.
Je vois exactement de quoi vous parlez, parce que j'ai écouté votre album en boucle et toutes ces références, elles sont vraiment présentes. Enfin, votre album, votre EP, puisque l'album n'est pas encore sorti. Mickey, on continue à discuter, on va rentrer dans vos influences musicales. Et on commence par un artiste que vous citez explicitement dans l'une de vos chansons. On l'écoute et on en parle après. Écoutez, Tapage, on est toujours avec Mickey sur France Inter et on écoutait à l'instant l'une de vos références musicales. Vous nous le présentez?
C'est One Notre X.
Ouais, c'est ça.
Oui, alors j'en parle dans Je t'aime encore. Et je dis, je t'ai croisé au concert de One Notre X Point Never. Et je me suis dit, non, never again, je t'avais même pas reconnu. Et c'est un moment qui s'est vraiment passé. Tout est assez véridique en fait dans cette chanson. Et oui, c'est une énorme influence musicale, que ce soit... Enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu le... Peut-être que ça va être une insulte pour certaines personnes, mais genre le Vangelis moderne, qui est aussi pour moi un énorme modèle, enfin, une grande inspiration, c'est un des artistes qui me touche le plus. Mais voilà, il fait partie de ces gens qui ont une sensibilité de musicale et surtout de texture, qu'ils arrivent à traiter les textures à un niveau d'importance aussi grand que des notes de musique, quoi. Et pour moi, c'est représentatif de la vie, parce que la vie, elle est faite de, de ça, de tous ces bruits entre les d'entre moments, et je trouve ça trop beau.
C'est un producteur américain de musique électronique expérimentale qui est signé sur un prestigieux label anglais qui s'appelle Warp, pour les plus connaisseurs de nos auditrices et auditeurs. Dans votre musique à vous, on retrouve ce travail sur les textures, et notamment là on a choisi ce morceau-là parce qu'il y a ce travail sur la voix, et vous travaillez aussi beaucoup avec ça. Dans votre musique, il y a cette tension entre l'électronique un peu expérimentale et des mélodies qui sont très pop, beaucoup plus accessibles. Comment est-ce qu'on construit un équilibre entre ces deux tropismes-là ?
Ben, je pense que ça, ce truc-là, il se fait naturellement en divisant juste la voix et la prod, parce que la voix par elle-même, enfin moi j'ai toujours adoré vraiment les trucs très catchy, même si j'écoute pas beaucoup de pop, j'adore les mélodies de voix qui sont assez simples et entraînantes, et voilà, très pop. Et après, en termes de prod, j'ai toujours écouté beaucoup plus de musique instrumentale que de musique avec des voix. Et donc le mélange, la rencontre, elle se fait naturellement comme ça.
Alors One Trick Point Never, c'est une influence qui est quand même très explicite, enfin qu'on entend dans votre musique. Et puis vous avez aussi des références qui sont plus surprenantes, notamment du côté du Japon. Alors vous citez la city pop japonaise, c'est ce courant musical qui est né à la fin des années 70, qui est né de l'appropriation par les artistes japonais de musique qui venait plutôt d'Occident. Ça sonne comme ça, la city pop. Alors j'ai choisi celle-là parce que c'est une autre Miki, elle s'appelle Miki Matsuba, ça date de 1979, le morceau c'est Stay With Me, puis je crois que votre maître absolu, qui est aussi japonais, c'est un certain Ryuichi Sakamoto. Qu'est-ce qui vous parle dans ce que font ces japonais-là ?
Il y a un truc dans leur rapport aux accords. Enfin, c'est marrant parce que vraiment, la city pop japonaise, c'est vraiment ça. C'est des japonais qui reprennent des styles musicaux et ils le refont en mieux. Quoi. C'est vraiment que les japonais qui arrivent à faire tout ça. Mais il y a un truc dans leur rapport aux accords et aux textures qui me touche instantanément et qui me fait l'impression de vivre dans un film, quoi. Et même si je suis coréenne, je suis beaucoup plus attirée. J'ai beaucoup plus de références liées au Japon. C'est un mélange de mélancolie, de nostalgie, d'espoir. Et je pense que ces trois sentiments-là, c'est quelque chose que j'ai envie d'insuffler dans ma musique aussi. Donc
pas de K-pop dans vos oreilles ?
Alors j'ai de la vieille K-pop. La vieille K-pop bien kitsch, plus des années 70, 80, 90. Mais la moderne, j'avoue, ça me parle un peu moins parce que je trouve ça très chargé et ça me touche moins. À part New Jeans, qui n'existe plus maintenant parce qu'il voilà, y a eu un petit désaccord administratif. Mais c'est New Jeans, ils ont redonné un nouveau souffle, je trouve, à la prod en K-pop aujourd'hui.
Ce qui m'intéresse aussi, Miki, c'est que vous avez une formation classique. Je crois que vous avez fait 10 ans de conservatoire, du violon, du piano, et que vous êtes fait virer.
Ouais.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que j'étais pas assidue, tout simplement. Je pense que j'arrivais à un point où c'était soit on faisait ça, on faisait des concours et on voulait en faire ça de sa vie. Et je voyais en fait les gens qui étaient autour de moi, ils ne me ressemblaient pas. Les gens, parce qu'en fait, au cours, il y a toujours un élève qui est là avant toi et l'élève qui arrive après toi. Donc, et à chaque fois, je voyais leur tête et tout le monde se vantait d'avoir fait 2 heures de gamme par jour. Et je me disais, mais c'est pas ça, enfin, c'est pas pour ça que je suis là en fait. Et j'ai toujours été beaucoup plus attirée par le jazz et qui est. J'adore.
C'est Paul Desmond Quartet, c'est une autre de vos références. Ouais,
Jezabel, j'adore. C'est toujours un des morceaux que j'ai le plus écouté de ma vie, je crois. Mais ouais, c'est un style musical qui m'a pas du tout été inculqué par ma famille. Je sais pas, j'ai toujours été attirée par ça. Et donc j'ai commencé à prendre des cours de jazz et là j'ai compris autre chose.
En quittant le conservatoire.
Ouais.
Et vous y avez trouvé quoi ? J'imagine une forme de plus grande liberté, peut-être dans l'improvisation aussi par rapport à ce que vous faisiez au conservatoire.
Ouais. Exactement, une liberté, parce que le jazz, ben, c'est des partitions où en fait on a plus voilà, les accords, et en fait on se dit en fait tu joues autour de ça plutôt que d'avoir une partition avec des notes qui te disent exactement quoi jouer, et si t'es à côté, genre, ben, ça veut dire que t'as raté. Donc ça te laisse pas beaucoup de place de créativité. Et donc voilà, je trouve que le jazz, ça y est, aussi une forme de gourmandise et de mélancolie que je trouve incroyable.
Il y a du jazz aujourd'hui dans votre musique ?
Pas dans vraiment,
votre, très
non.
Proche de la composition, peut-être ?
Je ne sais pas. En tout cas, si jamais il y en a une, je ne l'ai pas encore intellectualisée. Mais je crois pas. Je pense que ça fait partie des styles où je les garde un petit peu pour moi de côté. Je dis ok, je vous laisse tranquille. Ce sera mon petit. En fait, c'est comme la city pop. Le jazz, pour moi, c'est des styles musicaux qui c'est ma safe space. Je pourrais toujours les écouter en boucle. Ça va jamais me saouler. Et je pourrais toujours. C'est comme si je retournais à la maison, quoi. Mais ça veut pas dire que j'en mets beaucoup dans ma musique, où j'ai cette volonté là.
Et pourtant, Nicki, en préparant cette interview, j'ai fouillé un peu tout Internet et j'ai retrouvé ça.
Oh non ! Non !
Ça, c'est vous qui chantez du Fred Astaire dans un court-métrage que vous avez réalisé en 2021 et qui s'appelle Juste à côté. Et c'est très beau.
Oh God, je voulais effacer ça demain.
Ah, ça fait partie des choses que vous voulez effacer d'Internet ?
Peut-être. Bah, en fait, j'ai jamais sorti ce court-métrage. C'était le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie, je pense. C'était un court-métrage que j'ai fait autoproduit. Autoproduit, j'ai reçu une bourse en fait du Luxembourg pour le faire. Mais j'avais pas de boîte de prod, et j'avais une équipe technique qui m'a lâché une semaine avant, joué dedans. J'avais écrit, réalisé le truc. J'avais des figurants, 40 figurants. J'avais une équipe de jazz. Bref, tout ça à 21 ans, sous quelques mois. Et c'était. En fait, après ça, j'étais en mode, ok, je peux tout faire. Je peux tout faire, c'était tellement dur. Waouh, mais ouais, c'était un autre. Ouais, c'était un film sur le jazz, ouais.
Moi, j'étais ravie de vous entendre chanter du jazz. Il est 20h46 sur France Inter. Ça veut dire qu'il nous reste 14 minutes de tapage. Et vous avez un deuxième cadeau pour les oreilles avisées de nos auditeurs et auditrices. Nicki, je vous laisse vous mettre en place. On va écouter le premier extrait de votre album apparaître, c'est le morceau Particules. C'est à vous, Nicki.
Quelle heure il est? Est-ce que t'es telle avec elle? On peut sentir qu'elle se réveille, qu'elle te raque ses rêves. Quelle heure il est dans ta tête? Tu prends la poudre d'escampette. Je suis qu'un fichier qui se jette, qui se remplace. Et si mon tel vibre, c'est que Vinted ou France Inter. Y'a que toi qui peux te taire dans ces moments. Il me suffirait d'un mot, mais le grain de ta voix me fait déjà savoir qu'elle s'est fait sa place au creux de toi. Je suis qu'une particule qui orbite autour de toi, qui orbite autour de soi, qui orbite autour de. Je suis qu'une particule, quand je m'approche, je me brûle. Si je m'éloigne, je te perds, à quoi ça sert? Je suis qu'une particule. Je me sens tellement muette écho. J'étais même pas belle pendant le visio. Avec ma coupe de blaireau. Alors que c'était peut-être la terre. Toi t'étais tellement beau. T'es beau quand tu rougis. Tu rougis quand tu parles d'elle. Me dis t'inquiète, c'est pas la peine. C'est quand même pas une top modèle. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Puisque tu cèdes. Je suis qu'une particule qui orbite autour de toi, qui orbite autour de soi, qui orbite autour de. Je suis qu'une particule, quand je m'approche, je me brûle. Si je m'éloigne, je te perds, à quoi ça sert? Je suis qu'une particule. Je suis qu'une particule.
Bravo Nicki, merci, c'était Particule, donc extrait de votre album, premier album, apparaître le 3 octobre.
France Inter. Tapage.
Mickey, on est samedi soir et avant de vous dire au revoir, je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour explorer votre rapport à la fête. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes une fêtarde, Mickey ?
Oh que oui.
Oh que oui, vous me racontiez juste avant qu'on commence l'émission, vous étiez partie dans un festival de musique électronique cet été en Croatie.
Mm-hmm. Ça s'appelle Decmantel Selectors et ça se passe à Disno en Croatie. J'ai l'impression que je fais la pub et qu'ils m'ont payé pour ça. Mais non, trop pas. C'était la deuxième fois que j'y vais. En plus, c'est trop bien. C'est un peu toute la meilleure selecta des DJ de musique électronique qui passe à Decmantel.
Alors, à quoi ils ressemblent vos samedis soirs quand vous n'êtes pas dans le studio de France Inter?
Alors, le samedi soir... Alors moi, souvent, je ne sors pas le samedi soir. Je sors plutôt le vendredi.
Pour avoir le temps de s'en remettre.
Et voilà, exactement, parce que sinon ça va mal la vie. Mais sinon, ça dépend. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de routine. Souvent, si je sors, ça va être pas des soirées. Je ne vais pas aller en boîte, j'aime pas trop les boîtes, mais ça va plus être des artistes que j'ai envie de voir. Donc n'importe où ils jouent, j'y vais. Et voilà, je rejoins. Il faut que tu aies une bonne team de gens qui kiffent le son et qui kiffent se la mettre, ou non, on n'est pas obligé, qui kiffent danser surtout, c'est plus important.
Danser, donc c'est ça que vous recherchez dans la fête, un espèce d'exutoire physique?
Ouais, complètement. Danser, c'est trop important. Et parfois, j'avais déjà fait ça avec des copines, ou même, tu vois, on buvait de l'eau, on allait danser le moment où une boîte, elle ouvrait, genre de 11h à minuit, et en fait, le moment où tous les gens rentrent, on se cassait, et on avait juste la boîte pour nous, on dansait, et après, on se cassait. C'est trop important d'être connecté à son corps.
Est-ce que vous avez un rituel avant ou après la fête, peut-être ?
Avant la fête, bah, y a toujours la phase préparatoire où tu choisis comment tu vas te mettre et tu mets du son et tu danses déjà toute seule. Moi, j'aime bien me préparer toute seule, en vrai, chez soi. Et le lendemain... Hydratis, on dirait que je fais la pub aussi, mais voilà, j'ai découvert ces trucs, c'est des électrolytes.
Et ça c'est permet... une petite boisson qui réhydrate,
voilà,
quand
exactement.
On a fait quelques excès.
Exactement, Doliprane, Hydratis, vitamine C, petite douche, le lit, petite Deliveroo, petite nouille au poivre de Sichuan, et voilà quoi.
Et on est prêt pour la semaine qui vient. Alors, je vous ai demandé 3 titres qui incarnent la fête à vos yeux. J'ai choisi celui-ci. Ça, c'est pour toutes celles et ceux qui sont en train de se préparer pour la fête et qui vont suivre le conseil de Mickey. Danser un peu tout seul chez soi avant de sortir. C'est Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, sur France Inter. Ça m'a étonné que vous me donniez Kylie Minogue, Mickey, en référence de la fête, parce que ce morceau, il date de 2001. Si j'ai bien calculé, vous aviez 3 ans.
Mm-hmm.
Et vous dansiez déjà sur du Kylie Minogue?
Non, je pense que cette chanson, elle est revenue grave à la mode ces dernières années. Mais après, bon, voilà, je la connais depuis longtemps. Et elle a pour vocation, je trouve, en soirée, en fait, si t'es le mec le plus viril ou pas, ou la meuf la plus virile... dans la vie de tous les jours, ça va rassembler tout le monde et ça va sortir les moves les plus genre efféminés pour n'importe qui. Et genre, tout le monde est trop content au fond. C'est vraiment le guilty pleasure. Tout le monde est là, voilà, waouh! Nanana!
C'est marrant, vous parliez de l'importance de danser. Moi, j'ai vraiment un souvenir fort associé à cette chanson. J'étais en CM2. C'est au moment où il est sorti. Et vous savez, la garderie, juste après la classe, avant, en attendant que nos parents viennent nous chercher, il y avait une des personnes qui nous gardait qui mettait la radio. Et ce morceau était passé et on s'était tous mis à danser dans la garderie. Et vraiment, je crois que c'est un de mes premiers souvenirs de danse collective, Kylie Minogue.
Ah, mais ça rassemble de fou ce son, c'est ouf.
Et déjà en 2001. Merci beaucoup, Mickey. Un immense merci vraiment d'être venu nous voir dans ta page pour cette grande première. Votre album, il sort dans un mois. L'Olympia, le 10 octobre, bon, c'est déjà complet, mais on peut vous voir sur scène un peu partout en France ces prochains mois. On va mettre les dates de concert sur le site de France Inter. Je crois que vous préparez une nouvelle formation avec des musiciens.
Oui.
Vous êtes très excitée.
Oui, très excitée. Il y a l'Élysée Montmartre, du coup, 18, 19, 20 mars. Pour ceux qui ne peuvent pas venir à l'Olympia.
Merci encore d'avoir été ma toute première invitée, c'était un plaisir. Et puisqu'on a déjà commencé à entrer dans la danse, et ben avant de se quitter, on va continuer à s'échauffer, à s'ambiancer en ce samedi soir avec un tout dernier titre de Mickey. Vous allez voir, il est absolument génial. Je vous mets au défi de ne pas au minimum secouer la tête en l'écoutant. C'est Mickey avec les Anglais de Métronomie, Contact High sur France Inter.
Et si tu apprends que je t'attends, ne t'en fais pas, je t'oublierai dans un instant. Les autres font de ta histoire pour un pansement, de cœur à cœur et tout en tête pour le moment. Si tu apprends que je t'attends, ne t'en fais pas, je t'oublierai dans un instant. Les autres font de ta histoire pour un pansement, de cœur à cœur et tout en tête pour le moment.
Parce que je keep on trying to... Catch, I can bet you. You have a little attitude, get it over with. I hate that I adore you. Oh, et si tu apprends que je t'attends, ne t'en fais pas, je t'oublierai dans un instant. Les autres font de ta histoire pour un pansement. Le cœur à cœur et tout en tête pour le moment. And when you come back,
je vous avais prévenu que vous alliez la bouger, votre tête. Ça y est, on s'approche de 21h. Je vous laisse donc à votre samedi soir qui va continuer en musique sur les ondes de France Inter avec la radio de Daphné Burki. C'était la toute première de Tapage. Merci à Alexis Goyer à la préparation de l'émission. Merci à Stéphane Ronxin à la réalisation, à Florian Dittre à la technique. Merci aussi à Jocelyn Perrotin, le directeur de la musique de France Inter, pour la confiance. On se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit, pour encore plus de Tapage. Ciao.